Je voudrais dédier ce cours. Ce soir, nous sommes le 11 Nissan. Et le 11 Nissan, c'est une date chassidique très importante chez les chassidim. C'est le jour anniversaire du Rabbi. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai pensé qu'il était souhaitable, non seulement bien sûr, de ne pas annuler le cours, même si c'est la semaine de Pessah, et je félicite tous ceux qui sont venus, mais au contraire, d'essayer d'étudier un commentaire du Rabbi sur la Haggadah. Et comme vous avez dû voir dans le titre du cours d'aujourd'hui, c'est fil conducteur de la Haggadah. Ce qu'on va essayer de faire dans le cours d'aujourd'hui...
C'est aussi l'anniversaire de mon fils.
Mazal Tov. Ce qu'on va essayer de faire dans le cours d'aujourd'hui, on va essayer, Bezrat Hashem, de prendre 5 morceaux de la Haggadah, et vous allez comprendre que ce n'est pas des morceaux qu'on a choisis au hasard. Et donc avec ça, vous pourrez avoir... Mais il y aura toujours un fil conducteur, c'est un thème, un sujet. Et le but de ce cours, c'est que d'abord on comprenne le fil conducteur de la Haggadah, on comprenne l'enseignement actuel de la Haggadah, et que vous ayez quelque chose à répéter le soir du Seder à la table. Puisque les femmes font le ménage, les hommes participent un petit peu. Mais je pense que c'est la moindre des choses.
Il n'y avait rien dedans.
Je pense que c'est la moindre des choses d'avoir un Dvar Torah à répéter à la table du Seder. Okay. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par cette introduction. On va dire les Chaim.
Qui veut de la vodka?
Quoi?
C'est trop fort.
Il t'a donné tout ça.
Mais trop quoi les mecs?
Non mais tu vois la moitié maintenant, le reste tu
Allez.
Pardon.
Vous êtes prêts?
Tu veux Mika?
La rabotaille parce que sinon on va venir très tard. J'ai pas mal de choses à dire.
Là t'as 0,80 d'alcool là. Tu vas arrêter?
Ok. Messieurs, c'est bon.
C'est bon.
Non, je vais y aller.
Alors, toute l'année, nous avons la mitzvah.
Il y a pas de gobelet.
Allez, rabotaille, on se concentre. Toute l'année, nous avons la mitzvah de nous souvenir de la sortie d'Égypte. C'est une des 6 sfirot. Il y a 6 choses qu'on doit tous les jours de l'année se rappeler. Une des 6 choses, c'est se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais le soir du Seder, on n'a pas seulement la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, on a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Comme c'est écrit dans le Rambam, dans la référence numéro 1, dans Maïmonide, dans les lois du Hametz et de la Matzah, c'est écrit « Mitzvat aseh shel Torah, il est une mitzvah positive de la Torah, les saper, pas seulement de se souvenir mentalement, mais de raconter. Benissim veniflaot shasita, benissim veniflaot shenasu lavotenu. » Donc, de raconter les miracles et merveilles qui se sont passés avec nos parents, Ben Mitzrayim, en Égypte, Ben Leil Chamisha Asar Ben Nissan, nous avons la mitzvah de le raconter la nuit du 15 Nissan, c'est-à-dire cette année, la mitzvah vendredi est vendredi soir. Et donc, le commentaire explique...
Nissim et Neflaot, on les parle aussi à Chanukah.
Oui, mais là on parle de Pessah. Donc les miracles et les merveilles, qui sont arrivés à nos parents, à Pessah.
Uniquement vendredi ou bien parce qu'on fait deux.
Alors vendredi soir et pour nous aussi samedi soir. Et donc, comme dit le Sefer Chinuch, il explique, il dit pourquoi la mitzvah est tellement importante, cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Le Sefer Chinuch, il dit, mais cherchez mitzvah zo, quelle est l'origine de cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? Je veux dire, à quoi bien faire raconter la sortie d'Égypte? Parce que, bon, on est sorti d'Égypte, et alors, pourquoi c'est tellement important de raconter ça? On a eu plein de miracles. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Sefer Chinuch? Il dit qu'Yehu yesod gadol ve'amut razak betoratenu uve'emunatenu. Car la sortie d'Égypte est un grand fondement et pilier de notre Torah et de notre croyance, de notre foi. Ve'alken, c'est pour ça, anu omrim le'olam bebirchotenu bitfolotenu. C'est pour ça que vous avez dû remarquer que dans toutes nos prières et dans toutes nos bénédictions, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? On dit Zecher litiat
Mitzrayim.
Donc dit le Sefer Chinuch, il te dit, c'est pas par hasard que Dieu a instauré qu'une fois par année, on doit raconter la sortie d'Égypte, et que même toute l'année, quand on raconte pas, au moins, on doit au moins s'en souvenir. Puisque dans la sortie d'Égypte, il y a un fondement, il y a un pilier pour toute la croyance. Et il dit, c'est pour ça que dans toutes les prières, tous les jours, et en plus, sort du Seder, tout le temps, Zecher, Litziat, Mitzrayim. Alors, nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est en quoi la sortie d'Égypte, c'est un pilier tellement important de notre croyance. Bon, dire que c'est un moment important de notre peuple, c'est un moment où on est sorti d'Égypte, ça c'est clair, personne dira le contraire. Mais on a l'impression que c'est beaucoup plus que ça. C'est un pilier de notre foi. En quoi c'est un pilier de notre foi? En quoi c'est plus que Hanouka? En quoi que
à 49 degrés.
Mais d'accord, bon, ça c'est.
Donc si on est passé, on
s'en c'est très important, ça. Mais en quoi c'est un pilier de notre foi?
On est sorti de l'esclavage, on a commencé.
Il y a pas de problème. C'est, ouais. C'est une date très importante. Mais encore une fois, il doit avoir une raison en quoi c'est un pilier de notre foi. Et puisque le soir du Seder, on nous demande de raconter la Haggadah, donc probablement que ce pilier se trouve dans la Haggadah. D'accord? Bah oui. Les choses sont pas faites par hasard. Il faut savoir que la Haggadah a été composée, c'est pas très clair qui a composé la Haggadah. Il y a des parties de la Haggadah qui viennent de la Mishnah, des maîtres de la Mishnah. Mm-hmm. On va faire des pauses pour les questions, juste parce qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, on va essayer de se concentrer. Donc, il y a plusieurs éléments de la Haggadah qui viennent de la Mishnah, mais après il y a une composition, on sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'époque de la Gemara, est-ce que ça vient d'après? En tout cas, probablement que puisqu'il y a une mitzvah, le soir du Seder, de raconter la sortie d'Égypte, et que la sortie d'Égypte est un pilier de notre foi, ça veut dire que si je veux comprendre en quoi la sortie d'Égypte est un pilier de notre foi, la réponse est à aller chercher dans la Haggadah. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va essayer de prendre 5 éléments de la Haggadah. Vous allez comprendre que c'est 5 éléments clés de la Haggadah. On va poser sur chacun de ces éléments plusieurs questions. Et vous allez voir qu'à la fin, on aura une réponse qui va répondre à toutes les questions. Donc il faut s'accrocher parce qu'on aura au moins une dizaine de questions. Sur chaque morceau qu'on va citer, on aura plein de questions. On va complètement déstabiliser la Haggadah. On va prendre des morceaux un peu partout. Et on va complètement déstabiliser. Et après, on va expliquer comment il y a une réponse qui est un fil conducteur, qui d'abord nous montre le fil conducteur de la Haggadah, et en plus, qui nous montre que y a pas de, les éléments n'ont pas été placés par hasard, dans la Haggadah. D'autant plus qu'il faut savoir que les éléments sur lesquels on va s'arrêter sont des éléments qui sont principalement rajoutés lorsqu'on était déjà à l'époque de la Gemara, ça veut dire lorsqu'on était déjà en exil. Ça veut dire, quand on était à l'époque du Beth Amikdash, on faisait une Haggadah, une micro-Haggadah. Mais les éléments sur lesquels on va s'arrêter, qui sont des éléments qu'on connaît tous, vous allez voir tout de suite, on va se reconnaître dans ce que les éléments qu'on va dire, sont des éléments qui ont été rajoutés dans l'exil. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le Helachma Anya. Ou bien chez les Sfaradim, qui disent Helachma Anya, peu importe. Alors, pourquoi je vais commencer par Helachma Anya? Puisque vous remarquerez dans votre Haggadah, le Magid, il commence à partir de quand? On dit Kadesh, Uchatz, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid. Le Magid, il commence par quoi? Par le Helachma Anya. Avant, on a d'autres étapes. On a d'autres étapes, comme par exemple, le Kiddush, se laver les mains, le Karpas, d'accord? Casser la Matzah, ça c'est les étapes d'avant. Mais le Magid, quand vous regardez dans votre Haggadah, Magid, juste après, qu'est-ce que vous avez? Helachma Anya. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de prendre point par point. Et on va analyser, à chaque fois on va prendre le début, la fin de plusieurs morceaux de la Haggadah.
Juste 5 secondes.
Vas-y.
C'est pas la même Haggadah chez Lubavitch et chez...
Si, si. Pourquoi?
Je sais pas, tu me dis Alachmania et Lachmania.
Non, c'est ponctuation.
Ah d'accord, excuse-moi.
Prononciation.
Le Harizal, il faut dire Alachmania, ouais.
On sait qui est à l'origine de la structure de la Haggadah ou pas vraiment?
Il y a plusieurs versions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui l'a faite et que c'est pas par hasard. Parce que quand on lit la Haggadah, on a l'impression que c'est plein d'éléments qui sont ramenés en vrac, comme vous allez voir tout de suite.
C'est ça, voilà.
Et vous allez voir qu'avec le cours d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une structure qui est très très claire. Peu importe qui l'a composée, mais il y a une structure qui est très très claire et qui nous parle aujourd'hui en 2015.
On connaît juste l'année de la composition.
Non, on connaît pas.
On n'a pas du tout.
Il y a plusieurs versions, donc pour moi, on n'a pas.
D'accord.
Voilà. C'était après la Gemara, ça c'est sûr, mais la composition finale, on ne sait pas exactement.
Mais il y a un ordre chronologique dans les importances des...
Non, pas du tout.
Et l'Ahma, elle est par exemple...
Pas du tout.
Ça a été écrit en une seule fois?
Non, il y a eu des parties qui viennent de l'époque de la Mishnah. Et après, avec le temps, il y a des parties qui ont été rajoutées par la Gemara. Mais après, avec le temps, dans la Gemara, c'était pas composé comme chez nous.
Composé, c'est pas ça.
D'accord? Parce que, il faut bien comprendre qu'à l'époque de la Gemara, ce qu'on savait, c'est que, sur le deuxième vers, on devait lire la Haggadah. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Haggadah? On a quelques éléments clés dans la Gemara. Mais toute la Haggadah longue, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça, elle était pas dans le, d'accord? Excusez-moi, juste à l'intérieur aussi. À l'intérieur des toilettes, là, voilà. Merci. D'accord. Ok, alors on va commencer par le premier paragraphe de la Haggadah, le premier paragraphe du Magid. He Lachma Anya. Qu'est-ce que dit ce verset? Alors, He Lachma Anya, on va traduire ensemble, et il y a des éléments qui sont soulignés. Les éléments qui sont soulignés et qui sont en gras, ça veut dire que c'est les éléments sur lesquels on va se poser des questions. Alors, le verset, il dit comme ça. Il dit, He Lachma Anya, voici le pain, donc de l'affliction, donc de la pauvreté, Diachalu Av Atana, que nos ancêtres ont mangé, Be'ar'a des Mitzrayim. que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Kol dirfin yete veyichol. Que celui qui a faim vienne manger. Kol ditzrich yete veyifsach. Que celui qui a besoin, qui vienne passer le Pessah. Achata ara. Cette année, nous sommes ici. Leshana aba'a be'ara de Israël. L'année prochaine, on sera en Israël. Achata avdin. Cette année, nous sommes esclaves. Leshana aba'a benechorim. L'année prochaine, nous serons des hommes libres. Alors, j'ai plusieurs questions sur ça. Plusieurs questions. Attendez, très simple. D'abord, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On est en train d'inviter les pauvres ?
Bon, Hachem, on a des questions à venir.
Il y a un paquet de questions. D'accord ? Alors.
C'est un cours prolongé ?
Non, non, vous inquiétez pas. Mais il faut laisser venir les questions. Laissez-moi poser les questions. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'abord, première question qu'on se pose. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait là ? On invite les invités ? Mais les invités, c'est pas maintenant qu'il faut les inviter. Il fallait les inviter à la synagogue. Maintenant, quand t'es chez toi à la maison, cours toujours, crie toujours, et c'est fini, ils sont déjà invités. Alors, c'est évident, d'accord? C'est évident que on n'est pas en train de dire, d'accord? On n'est pas en train ici simplement d'inviter les invités. Apparemment, il y a un message qu'on veut dire ici. D'accord? Alors, j'ai plusieurs questions. Première question. Voici le pain de la misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte. Mais non, ils n'ont pas mangé ça en Égypte.
Ils ont jamais mangé.
Ah non, ils ont mangé en sortant d'Égypte. La matzah, non, il n'y a pas de faute. Tu vas regarder dans ta Agada, c'est écrit Be'ar'a de Mitzrayim. Alors, il y a des commentaires qui veulent répondre, Behemet. Il y a des commentaires qui veulent répondre, qui disent que, en vérité, le pain de la misère, ils disent, il y en a qui disent qu'ils mangeaient ça en tant qu'esclaves. Mais ça, dans le pshat, c'est pas écrit. Dans le pchat, on est en train de célébrer la sortie d'Égypte. Or, dans ce cas-là, on aurait dû dire « Et l'Arma Anya, voici le pain de la misère que nos parents ont mangé en sortant d'Égypte. » Pas en terre d'Égypte. Première question.
Tu parles d'autre chose, alors tu parles de la misère.
Très bien, bonne question. Deuxième question. Le soir du Seder, on est en train de rappeler qu'on est sorti d'Égypte. D'accord ? On est en train de parler de la libération. Qu'est-ce que tu es en train de me rappeler maintenant, de me dire « Aujourd'hui on est ici, aujourd'hui on est esclave, demain on sera libre. » Mais c'est pas ça le thème.
On est déjà libre.
On est déjà libre. Mais oui, mais en tout cas, c'est ça ce qu'on célèbre. On est là, Benéchorin, on doit être Benéchorin. Et qu'est-ce que tu me dis dans le Maguide? Tu commences le Hélar Pahania en disant aujourd'hui on est là, demain on sera en Israël. Aujourd'hui on est esclave, demain on sera libre. Mais non, on est libre aujourd'hui, on est en train de célébrer la liberté. Qu'est-ce que tu racontes? Donc vous voyez déjà, dès qu'on commence le Hélar Pahania, ça tient pas la route. Ça tient pas. Qu'est-ce qu'on raconte là? C'est-à-dire, déjà, on comprend pas qu'est-ce que tu es en train d'inviter des invités. Les invités, c'est fini, ils sont plus là, les invités. C'est trop tard, t'es déjà à table maintenant. On comprend pas qu'est-ce que tu es en train de dire, le pain de la misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte, alors qu'ils ont mangé ça en dehors d'Égypte, en sortant d'Égypte. Et on comprend pas qu'est-ce que tu as besoin de rappeler que nous sommes esclaves aujourd'hui. Mais on n'est pas esclaves, on est libres maintenant. C'est ça ce qu'on est en train de célébrer. Le soir du Seder, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la fête de la libération. Alors, on est libre. Qu'est-ce que tu me dis? Aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, on est esclave. D'accord? Ça, c'est une première série de questions qu'on a sur le Hélar Pahania. Donc, vous voyez, on a complètement déstabilisé l'Hélar Pahania. Ok. Deuxième question. On va passer maintenant à un deuxième paragraphe de la Haggadah. Alors, donc, après, l'enfant pose ses quatre questions, etc. D'accord? Et après, on raconte. Ah, Vadim, d'accord? Comment on dit? Hein? Alors, vas-y, on continue. Allez, on va lire ensemble. Je vais traduire. Alors, on va lire ensemble. Qu'est-ce que dit cette deuxième partie de la Haggadah? Toujours dans le Maggid. Alors, on raconte, on dit, Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim. Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Bon, ça c'est vrai. Voyotsienou Hashem Elokeinu Misham, et notre Dieu nous a fait sortir de là-bas, Beyat Razaka, avec une main forte, ou Bizroa Netuya, et un bras étendu. Et écoutez bien ce qu'on dit. Si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres, mais Mitzrayim d'Égypte, aré, à nous, eh ben, nous, où venez-nous, et nos enfants, où venez-nous, et nos petits-enfants, Meshur Abadim Aïnou, les pharaons de Mitzrayim, nous serions encore esclaves du pharaon en Égypte.
Mais ça, on le sait.
D'accord, attendez. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on raconte? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de graisser la patte à Dieu, on dit, tu sais, Kadosh Baruch Hu, merci de nous avoir fait sortir, parce que si tu nous avais pas fait sortir avec la main forte, on serait aujourd'hui encore, nous, nos enfants et nos petits-enfants, encore esclaves. Il y a un problème. Le contrat d'esclavage, dès le départ, pourquoi on est venu? Il était limité dans le temps. Il y a un passouk dans la parasha Lech Lecha. Mais bien sûr. Dans la parasha Lech Lecha, quand il y a eu Brit Ben Abetarim, quand il y a eu l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Dieu a annoncé à Abraham. Vayomer le Abraham, il lui a dit, dans la parasha Lech Lecha, Il lui a dit, guerre Yézara, ta descendance sera étrangère, donc sur une terre étrangère, Be'eretz Lolaem, dans une terre qui n'est pas à elle, Va Vadum Veinu Otam, donc ils seront asservis et opprimés, Arba Meot Shana, 400 ans. Donc c'était clair, 400 ans. Alors qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Si c'est pas Dieu qui nous avait fait sortir, nous serions encore esclaves. Mais non, on serait pas encore esclaves, parce que de toute façon, on devait sortir. Donc, ça veut rien dire ce qu'on est en train de dire ici. On a l'impression de dire, merci Dieu de m'avoir fait sortir, sinon je serais pas sorti. Pas du tout. Ouais, mais... Dès le départ, l'esclavage était limité dans le temps. Et dès le départ, on devait sortir.
Mais il a réduit le temps.
Mais c'est ça. Non. Mais alors, dans ce cas, très bien, bonne question. Même si tu dis qu'il a réduit le temps, c'est pas ce qu'on a dit ici. Attendez, c'est pas ce qu'on a dit ici. On a dit, on est en train de dire que si Dieu nous avait pas fait sortir, nous, nous, je parle de moi, d'accord, nos enfants et nos petits-enfants, pas eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Je parle de moi. Je dis que maintenant, en 2015, on serait encore les esclaves de Pharaon. Sur ça, je pose la question, je dis c'est faux. Je dis c'était limité dès le départ à 400 ans. C'est une question que beaucoup de commentateurs posent, ça. C'est dès le départ, c'était limité à 400 ans. Et aujourd'hui, en 2015, nous serions pas esclaves de Pharaon parce que le même Dieu qui a fait le décret, ce même Dieu avait déjà donné une date limite. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? Merci, il nous a fait sortir. Si tu nous avais pas fait sortir, on serait là bloqué. Je comprends pas, dès le départ, le fait qu'il nous a mis en prison pendant 400 ans, c'était prévu d'être là en 400 ans. Alors qu'est-ce que moi je vais dire merci qu'il m'a fait sortir? Mais demande-lui pourquoi t'as fait rentrer en prison déjà. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces histoires-là? Donc vous voyez, ce qui nous dérange dans ce paragraphe, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que si Dieu nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous... Nos enfants et nos petits-enfants serions encore esclaves de Pharao, d'accord, de Pharao en Égypte. Donc vous voyez encore une fois une deuxième question sur une deuxième partie de la Haggadah, juste après les quatre questions. Ok. Après, on va prendre un troisième texte.
Il y a plein.
Est-ce que tout est clair jusqu'ici?
Non, celle-ci, elle peut s'expliquer rapidement.
Vas-y, explique.
Voilà. Donc comme ça, au sens...
Vas-y,
au
sens explique. Sens, vas-y, explique.
On aurait pu assimiler, c'est tout, voilà.
Ah, non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Abadim. Il a dit Meshur Abadim, Aïnou, les pharaons de Mitzrayim.
On serait encore esclaves. Ah oui, on serait pas esclaves.
On serait pas esclaves.
Tu as raison.
C'est faux.
Pas tout à fait pareil.
Mais c'est oh là, et
exactement.
Elle est inutile.
D'abord, elle est fausse. Et en plus, elle est inutile. Elle sert à rien. À la limite, rappeler qu'on était esclave. Bon, c'est important. Mais de dire, et tu sais, si nous avions fait sortir, on serait limité. Ça fait un peu marseillais. Là. Ça fait un peu. Dès le départ, l'esclavage était pour une raison donnée. C'était un contrat à durée déterminée.
Peut-être qu'il y aurait eu d'autres phénomènes qui auraient.
Mais pourquoi? Quel autre phénomène? Dès le départ, Dieu il a dit c'est limité à 400 ans. Qu'est-ce qui peut limiter? Après, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Moi, Dieu il m'a mis en esclavage, c'est pas son problème s'il ne règle pas ses problèmes en 400 ans. Moi, c'est évident que je devrais sortir. Donc, on a déjà deux questions. Première question qu'on a eue sur le Elarmania, on a posé des questions. Elarmania, on n'a vraiment rien compris. Là. Quel rapport avec la matzah qu'on a mangée en terre d'Égypte? Quel rapport? Pourquoi rappeler l'esclavage alors qu'on est déjà sorti d'Égypte? D'accord. Et aussi, on a expliqué quel rapport. Qu'est-ce que t'as envie de les inviter maintenant? Alors que bon, les invités maintenant, ils sont déjà, ils sont plus là. Ou ils sont à table, ou ils sont pas là. En tout cas. Ok. Troisième texte. Et retenez bien les questions parce qu'après Bezrat Hashem, à la fin du cours, une fois qu'on aura la réponse, on repassera sur les textes et vous verrez que chaque question que j'ai posée, et c'est très simple pour vous souvenir les questions, c'est tous les textes qui sont en gras. Voilà, donc c'est facile. Mm-hmm. On va passer maintenant à un troisième texte dans la Haggadah. Alors, Mitechila. Vous voyez, c'est les textes clés de la Haggadah qu'on a choisi. Parce que la Haggadah, il y a plusieurs tronçons dans la Haggadah et à chaque fois, on a choisi un texte qui est un début de tronçon. Voilà, c'est pas compliqué. Dans votre Haggadah, vous pourrez le voir, à chaque fois, c'est un tronçon. Alors, troisième tronçon de la Haggadah, Mitechila, juste après le Vishamda, donc Mitechila, Ovde Avodazara, Ayo Avoteni. On raconte que Mitechila, Ovde Avodazara, Ayo. On raconte qu'au début, quand je dis au début, c'est quand au début? Au début, ça veut dire avant Avraham. Ovde Avodazara, Ayo Avotenu, nos ancêtres étaient idolâtres. Ve'archav, et maintenant, Kervanu Hamakom la Avodato, le tout présent, donc Dieu, nous a rapprochés de son service. Chez Nehemar, comme c'est écrit, trois petits points. Bever Anaa Yajwa Votechem Mirolam. Donc, de l'autre côté du fleuve, vos ancêtres ont vécu. Terar Avi Avraham. Terar, le père de Avraham. Va Avi Nahor, le père de Nahor. Va Yahavdu Elohim Acherim. Et ils ont adoré des divinités étrangères. Ça veut dire que dans cette partie de la Haggadah, qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle le fait que, avant, nos parents, quand on dit nos parents, on remonte très 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 loin. Nos parents étaient idolâtres. Ve'archav, et maintenant, kervanu hamakom l'avodato, maintenant, Akadosh Baruch nous a rapprochés de son service. Alors, j'ai plusieurs questions à poser. D'abord, première question, ça veut dire quoi ve'archav, et maintenant?
Est-ce qu'il s'agit de nous?
C'est pas maintenant. C'est, il ne s'agit pas de nous. C'est quelque chose qui s'est passé, ça fait plus de 3500 ans. On revient à Avraham Avinu. Ah ben non. Quand on dit Archav, c'est Archav. Premièrement. Deuxième question. Pourquoi dans la Haggadah, on a besoin de rappeler ce qui s'est passé chez Avraham Avinu? Quel rapport?
On a l'impression qu'il n'y a aucun rapport.
Il n'y a aucun rapport. Il n'y a strictement aucun rapport. On est là pour célébrer la sortie d'Égypte. Alors si tu veux célébrer la sortie d'Égypte, parle-moi de la sortie d'Égypte. À la limite, parle-moi des Juifs qui sont arrivés en Égypte. Mais quel rapport? Ou bien tu sais quoi? Parle-moi que Dieu, il avait parlé à Abraham et qu'il avait annoncé qu'on sera libéré au bout de 400 ans. Mais qu'est-ce que tu as besoin de me raconter que le père d'Abraham était idolâtre? Et que tu sais, et après, et maintenant, Dieu nous a rapprochés. Donc deux questions j'ai sur ce texte-là. Premièrement, quel rapport maintenant? Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit maintenant? C'est pas maintenant, ça fait 3500 ans. Deuxième question. En quoi c'est nécessaire de rappeler cette histoire-là, qui a priori quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, qui remonte à Terach, d'accord? C'est la nuit des temps. Qu'est-ce qu'on a besoin de rappeler ça dans la Haggadah? Je veux dire, à la limite, vas-y, parle d'Adam Arishon tant qu'il y est. Vas-y, remonte. Bah, remonte avant Adam Arishon aussi, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as besoin de remonter à Terach?
On peut dire que la Haggadah, on répète ce que nos ancêtres ont dit en sortant
de l'Égypte. Ah non, pas du tout. Non, dans la Haggadah, il y a une structure très claire. Vous allez voir à la fin du cours, il y a une structure très très claire, mais c'est magnifique. La vérité, j'ai du mal à me retenir à vous donner la réponse, parce que la réponse, elle est énorme.
Le seul lien qu'on répète, c'est le premier.
Oui, mais il faut un fil conducteur dans la Haggadah. Comment l'enfant, il est là. Il faut comprendre que l'enfant a posé quatre questions. On lui donne des réponses. Eh bien, il doit avoir un fil conducteur, on raconte pas des éléments en vrac, c'est pas sérieux. Là, pour l'instant, on commence à parler du pain de misère, après on dit qu'on était esclave à Pharaon en Égypte, et on dit sinon on sera encore esclave, après on remonte à Terach.
On parle de ceux qui sont sortis d'Égypte.
Oui, mais.
Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils parlent, nous on répète ce qu'eux ont dit.
Non. Ah, mais non, on dit pas ce qu'ils ont dit, ils ont pas dit ça.
Pourquoi?
Parce que c'est pas écrit, ils ont pas dit ça, c'est une histoire que nous on raconte. Mitterri, là, on raconte. Et en plus, prends dit Ve'archav, maintenant. C'est pas maintenant que ça s'est passé.
Mais on dit ça.
Non, c'est pas écrit ça. Non, c'est pas ça la réponse. Peut-être qu'il y a une réponse comme ça, mais c'est pas.
En fait, on ne parle pas d'eux, on s'identifie à eux.
Oui, mais encore une fois, quand tu dis le mot Ve'archav.
Il s'agit de nous.
Ça, là.
Tu t'appropries
l'histoire. Ok. Et ben là, a priori, moi, excuse-moi, Terach, ça me parle pas, Terach. Terach, d'abord, ça n'a aucun rapport avec la sortie d'Égypte, et en plus, c'est pas Archav. C'est pas maintenant. Ça fait très longtemps.
Mais okay. On n'aurait pas dû commencer normalement par Al-Ahmania.
Attendez, doucement, vous allez voir. Je pose des questions d'abord.
Il n'est pas dans l'ordre, là.
Ça, c'est l'ordre de la Haggadah.
Oui, je sais bien, mais à mon avis, on devrait inverser. Celui-là, il devrait venir ici, celui-là.
Vous
là.
Avez raison, on comprend même pas ce qu'il fait le Al-Ahmania au début. On a posé la question, on comprend pas ce qu'il fait. Très bien. Maintenant, on va s'arrêter sur un quatrième texte. Quatrième texte de la Haggadah, texte très connu, Vehish Amda. Vehish Amda, la voté nouvelle anneau. D'accord? Et là, bien sûr, on lève le verre, qu'est-ce qu'on dit? Veish Amda, la voté nous velan. Traduction. Veish Amda, et c'est cela qui a maintenu. La voté nous velan. Pour nos pères et nous-mêmes. Shelo echad bilvad, amad alenu lechaloten. Ce n'est pas un seul qui se levait contre nous, lechaloten nous, pour nous anéantir. Et là seulement. Shebechol dor vador. Dans toutes les générations, dans chaque génération. Omdim alenu lechaloten nous. Il y a des gens qui veulent nous détruire. C'est le nom qui change. Une fois c'est Aman, une fois c'est Ahmadinejad, une fois c'est Amalek. Mais le nom il change, mais il y a toujours des gens qui veulent nous détruire. Ve'akadosh Baruch Hu, matzilenu miyadam. Et Akadosh Baruch Hu, merci Hachem. Akadosh Baruch Hu, matzilenu miyadam. Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Alors, j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit dans le Veishi Amda? On est en train de dire merci Hachem de nous sauver de la main de qui? Des gens qui veulent nous détruire, dans chaque génération. Maintenant, ces gens qui veulent nous détruire, c'est les tzadikim ou des rechaïm?
Tzadikim, rechaïm.
Bon, on est d'accord. Ah, c'est attention.
Non.
Alors. Très bien. Alors, je pose une question très simple.
D'accord?
Je pose une question très simple. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être là? C'est dans le même style que ce qu'on a expliqué avant dans la Vadim Aïnou. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être là à remercier Hachem qui me sauve de la main des rechaïm? Écoutez bien ma question. On va revenir à la paracha Bereshit, qui est dans la référence juste en dessous, dans la référence 5. Dans la paracha Bereshit, Rashi s'arrête sur le mot Bereshit. Bereshit, Rashi nous dit, il faut décomposer en deux, ça nous fait Bet Reshit. Bet Reshit, ça veut dire que le monde a été créé pour deux choses qui s'appellent Reshit. La Torah s'appelle commencement, et Israël s'appelle commencement. Et dit Rashi, regardez, Rashi, dans la référence numéro 5, premier Rashi de Bereshit, enfin, c'est là-bas, deuxième Rashi, il dit, Bereshit bara, au commencement Dieu créa, Bishvil à Torah, etc., ou Bishvil Israël, chez Nekriou Reshit. Le monde a été créé pour la Torah et pour Israël. Les deux ont été appelés Reshit. Ça veut dire comme ça. Dès le départ, quand Dieu a donné son plan, il a dit que pour qui il a créé le monde? Quelle est la raison pour laquelle il a créé le monde? C'est très clair. Pour la Torah et pour Israël. Donc c'est évident que Dieu va nous sauver quand il y a un rachat qui t'attaque. C'est un rachat qui m'attaque. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu sais, dans chaque génération, il y a des gens qui vont nous détruire et c'est Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Waouh! Mais c'est normal que Dieu nous sauve. D'abord, c'est un rachat qui m'attaque et en plus, le monde a été créé pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai besoin d'en faire un drame, d'en faire un plat?
Mais parfois il faut répéter d'accord. Les évidences.
D'accord. Mais ça veut dire, alors tu, certes ce que tu dis c'est important, toi tu dis c'est une évidence mais il faut la répéter. Mais de la manière comment on le met dans la Gada, et comme a dit Avraham, quand on dit le Veishé Hamda, qu'est-ce qu'on a l'habitude d'après le Minak Jariz, on a l'habitude de lever le verre. Le Harizal dit que le Veishé Hamda est un élément central de la Gada. A priori c'est une évidence. C'est normal que Dieu nous sauve. Nous sommes ses enfants, il a créé le monde pour nous. Celui qui m'attaque c'est un rachat. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient cogner votre fils, et que celui qui vient le cogner, c'est un imbécile. Vous n'allez pas le défendre? Mais c'est évident. Et l'enfant, il va dire, tu sais, papa, la vérité, tu es tout le temps là pour moi, merci beaucoup, et tout le temps, il y a des gens qui m'embêtent, tout le temps, tu es là pour moi. Le père dit, mais c'est normal. Et même pour le fils, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de répéter une évidence? Donc, encore une fois, la question sur le Veishé Hamda, c'est quoi? Quelle est la nécessité de répéter, d'en faire un plat, d'en faire un drame, de faire quelque chose d'important? Alors, c'est quelque chose de normal. Ok? Enfin, cinquième texte de la Haggadah. Kama, c'est le fameux Kama Ma'alot Tovot. Donc, cinquième texte de la Haggadah, qu'on s'est arrêté. Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. C'est les 14 bienfaits. On rappelle les 14 bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, vous savez que quand on lit ce texte, il faut le lire d'un trait. Il ne faut pas s'interrompre au milieu. Parce que c'est 14 bienfaits qu'il faut lire d'un trait. Est-ce que tout le monde a une feuille?
Non, pas moi.
Alors. Tiens. Alors. Kama Ma'alot. Alors, regardez.
Là, il le dit là.
Alors, Ilou. Ah, très bien. Ilou Otsianu Mitzrayim. Alors, je ne vais pas lire les 14. On va s'arrêter juste sur un élément. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ilou Otsianu Mitzrayim. Si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte, Velo Asavaem Shefatim, et qu'il n'avait pas fait des jugements contre les Égyptiens, c'est-à-dire juste qu'il nous avait fait sortir, Dayenu.
Ça nous suffit.
Ça nous aurait suffi. Oui. Trois petits points. Après, il y a encore 12 autres trucs. Et il y a un dernier. Ilou ichnisanu le'eret Israël, velo vanalanu ad betabechira. Si Dieu nous avait fait rentrer en Israël et qu'il nous avait pas construit le Beit Amikdash, attention, comment on l'appelle le Beit Amikdash?
Betabechira.
Betabechira, la maison d'élection. Pourquoi on l'appelle comme ça le Beit Amikdash? Non, la maison d'élection, la maison que Dieu a choisie.
Dans quel sens élection?
Ok. On l'appelle Beit Abechira. Pourquoi on l'appelle Beit Abechira? Alors, attendez. Daïe, nous, ça nous suffit. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Regardez Rabotai. Al-Achad Kama Vechama. On dit, à plus forte raison. Tovar Fulam Kupelet. C'est-à-dire, à chaque fois, on dit, si vous avez fait ça, sans ça, ça nous aurait suffi. Ça, sans ça, ça nous aurait suffi. Et après, on dit, à plus forte raison, que maintenant qu'il nous a donné ça, et 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 ça, alors là, merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi les 14 choses? Écoutez bien. À la chat kama vekama, plus forte raison. Tovar fula umkupelet, la makom alenu. On doit remercier à Kadosh Baruch Hu pour les bienfaits doublés et redoublés que Dieu a fait alenu pour nous. Sheotsianu memitzrayim, qui nous a fait sortir d'Égypte. Veasabem chez Fatim, et qu'il a porté les jugements contre eux. Trois petits points. Veichnisanu l'eret Israël, et Dieu nous a fait rentrer en Eret Israël. Uvana lanu et bet abechira. Et il nous a construit, Beit HaBechira, la maison d'élection, encore une fois la maison d'élection, pas le Beit HaMikdash, maison d'élection, l'Echaper Alkol Avonoteinu. D'accord? Il a construit la maison d'élection pour pardonner sur toutes nos fautes. Le but du Beit HaMikdash, c'est de pardonner sur toutes les fautes?
Pas du tout.
Ça, c'est le but du Beit HaMikdash?
Avec Corbanot, oui.
Bah, attendez, le but du Beit HaMikdash, c'est ça?
C'est de faire la maison.
Dans la Parasha Teruma, qu'est-ce qu'il écrit? Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betoram.
Faire une
demeure pour Dieu.
Ici.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il nous a construit le temple pour pardonner sur toutes nos fautes. D'ailleurs, vous remarquerez que dans tous les 14 éléments, dans les 14 éléments, on ne dit pas pourquoi Dieu a amené l'élément. Par exemple, on dit, un des éléments, on dit, s'il nous avait amené devant le mont Sinaï et il ne nous avait pas donné la Torah. D'accord? On n'explique pas à chaque fois pourquoi, à quoi sert chaque étape. Juste on dit, si on avait ça sans ça, on n'explique pas. Et la dernière étape, on t'explique. On te dit, et il nous a donné le Beit HaMikdash, et là on t'explique pourquoi il a donné le Beit HaMikdash, pour pardonner sur toutes les fautes. D'abord, pourquoi tu m'expliques la raison? Les deux, t'as pas expliqué la raison. T'as pas dit pourquoi tu m'as fait sortir d'Égypte. T'as pas dit pourquoi tu les as frappés. T'as pas dit pourquoi. Là, tu expliques. Et en plus, la raison que tu donnes est fausse. C'est pas la vraie raison. Dieu, il a pas créé le Beth Amigdash pour pardonner nos fautes. Il a créé le Beth Amigdash pour la maison d'élection. Et en plus, le Beth Amigdash, on l'appelle maison d'élection. C'est quoi ce mot maison d'élection? On n'a jamais vu ça. Pourquoi il m'appelle Beth Amigdash? Comme le nom, ou Mishkan. Le mot Beth Abichira, c'est un mot très rare. Pourquoi le Baal HaGada, il a choisi ce terme-là?
C'est pas de l'araméen, ça?
Bechira. Non, pas du tout. Beth Abichira, c'est en hébreu.
Nifreret, c'est...
Ça fait beaucoup de questions, tout ça. Hein.
Ah ouais,
bon.
Ouais.
C'est pas mal de questions. Alors là quand vous voyez tout ça, vous vous dites... quand vous voyez tout ça, vous vous dites, ben, la vérité, on est vraiment en galère. Comment on va faire avec tout ça, maintenant?
On m'a bien fait de venir.
Hein, on a l'impression que... on a l'impression qu'on a rien compris de la HaGada. D'accord. Donc pour résumer, en fait, je ne vais pas résumer. En vérité, on a, enfin, c'est rien de résumer parce qu'il y a plein de questions.
Si, on avait compris le sens.
D'accord. Donc là maintenant, si on s'arrête là, on comprend qu'on n'a rien compris à la Gada. Pas en tout cas que parlant a compris, mais ni on a compris le fil conducteur. On a pris 5 éléments clés de la Gada que tout le monde connaît. Vous avez vu, j'ai remarqué dans vos yeux, d'accord. Même vous, il y en a qui se retenaient de chanter. C'est des éléments qu'on connaît tous par cœur. Ça, c'est des éléments clés de la Gada. Il y en a même qu'on chante parce que c'est important, etc. Avadimaynu, Mitechilov d'Avodazara, Veishi Hamda, Kamamalot. Et on voit que ces textes-là, il y a des incohérences qui sont vraiment majeures. C'est vraiment des incohérences. On comprend pas ce qui est en train de se passer ici. Bon. Alors, s'il y a des incohérences majeures, c'est peut-être qu'en vérité, on a fait un faux départ. C'est qu'en vérité, le Hé Lachmania, on est passé à côté. Pourquoi? Parce que le Hé Lachmania, c'est une sorte d'introduction de la Haggadah. Et donc, on a mal démarré.
Ah oui.
Le Hé Lachmania était pas bon. Et vous allez voir que quand on va expliquer le Hé Lachmania...
Il n'est pas à sa place. Hein.
Non, vous allez voir qu'il est big time à sa place, d'accord?
Big time.
Alors, vous allez voir qu'il est à sa place, et vous allez voir que non seulement il est à sa place, mais qu'il va répondre à toutes les questions. Une réponse qui va répondre à toutes les questions. On va tourner la page. Mais, comme d'habitude chez les Juifs, pour répondre à toutes ces questions, on va d'abord poser 3 questions. J'ai pas fini avec les questions.
Mais là, on...
une petite. Vas-y. Sur la matza, mais je me rappelle plus de la réponse, c'est horrible, on l'a fait l'année dernière. On a vu qu'en fait...
Attends, c'est sur les morceaux là qu'on a dit?
Ouais, c'est sur le pain.
Oui.
Là, c'est le pain de la vivante que nos ancêtres ont mangé. Mais en fait, ils ont mis 3 jours pour sortir, ils ont jamais mangé ce pain. Histoire du pain... Je l'ai oublié, mais...
Donc ta question que tu poses, c'est que cette matza, elle correspond à quoi?
Elle correspond à rien.
Elle correspond à rien du tout. Voilà. On comprend pas de quoi ça parle. Bonne question. Ok. Alors maintenant, on va tourner la page, on est à la référence numéro 7. En fait, Rabbi dit, c'est très simple. Il dit, l'enfant qui est présent à la table du CDR, avant même qu'on ait commencé le CDR, là, quand on va commencer le CDR, l'enfant, il va poser 4 questions. Les 4 questions, on les connaît. Mais avant même qu'on ait commencé le CDR, l'enfant, et l'enfant, c'est nous, l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant, mais c'est aussi nous, l'enfant. Il a 3 questions de base qui le dérangent avant même de commencer le CDR. Écoutez les 3 questions que le Rabbi pose. C'est 3 questions. Mais c'est vraiment, vous savez, nous, on a l'habitude, on se pose tous ces questions. Mais c'est des questions qu'un enfant, il se pose. Vous allez voir, c'est des questions qui sont poignantes. Première question. L'enfant, il sait très bien qu'on est en exil aujourd'hui. D'accord? Et donc, l'enfant, il se pose une question, il dit, mais je comprends pas. Qui c'est qui nous a libérés d'Égypte? C'est Dieu. Ce que Dieu, il fait. Ça marche, ça fonctionne. Tu m'as dit que Dieu nous a libérés d'Égypte. Alors, Madua lo aita ageula de yitziat mitzraim beulat olam. L'enfant dit, je comprends pas. Pourquoi on est encore en galère aujourd'hui? Si Dieu nous a libérés d'Égypte, Dieu nous a libérés de l'exil, alors pourquoi on est encore en exil aujourd'hui? Echitachen shanachnu adayim shruim begalut. Comment on peut comprendre qu'on est encore en exil? En d'autres termes, un enfant, vous savez, il réfléchit de manière très simple. On lui a raconté à l'école que quand on était, d'accord, ça fait très longtemps, quand on était en Égypte, Dieu nous a libérés. L'enfant, il entend Dieu, il nous a libérés, il dit, ça y est, Dieu nous a libérés, ça maintenant on est tranquille. L'enfant, il dit, et qu'est-ce qu'il entend dans l'actualité? Il entend un attentat ici, un truc là-bas. L'enfant, il dit, mais je comprends pas. Quelle libération on célèbre maintenant? On est encore en exil. Ça, c'est la première question que l'enfant se pose. Avant même de commencer le CDR. Première question. Deuxième question. L'enfant, il a appris à l'école, et ça, on lui a dit, que les bénis Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis birchouch gadol. Ils sont sortis avec beaucoup d'argent. Or, le problème, c'est que l'enfant, il voit qu'autour de la table, il y a des invités. Et que ces invités, c'est des pauvres. Donc, écoutez la question de l'enfant. Kevat chez Bnei Israël et Tsubichouch Gadol, puisque les Juifs sont sortis avec beaucoup d'argent. Kevtachat à Kadosh Baruch Hu, comme Dieu l'a promis. On a dit, Dieu l'a promis à Avraham. Echitachen Shieshna Aniyut Bnei Israël, comment c'est possible qu'il y ait des invités pauvres? En d'autres termes, l'enfant, il comprend pas, il dit, puisqu'on est sortis très riches, chacun était très riche, pourquoi il y a des pauvres? Deuxième question. Attendez. Comme j'ai dit, l'enfant, c'est tout le monde. L'enfant, c'est nous. C'est des questions fondamentales qu'on pose ici. Ça veut dire, l'enfant n'est pas, un enfant n'accepte pas les injustices. Il n'accepte pas l'injustice de l'exil. Il comprend pas, on est sorti pour en encore en exil maintenant. Il comprend pas l'injustice de la pauvreté. Et enfin, L'enfant ne comprend pas pourquoi Aliad Ashulchan Aseder Nimsa Gam Arachin. L'enfant sait que dans les quatre enfants qu'on va citer, il y a quatre enfants. Et un des quatre enfants, c'est qui? C'est le Racha. Mais l'enfant, il était à l'école. Il a appris à l'école que les Rechaim qui étaient en Égypte, ils sont pas sortis. Ils sont morts pendant la plaie de Rocher. Var et Arechaim chez Beoto Ador, le Nikalou Mitzrayim. Les mécréants de cette époque-là, ils sont pas sortis d'Égypte. Ils sont restés, ils sont morts pendant la plaie de Rocher. Alors l'enfant, il pose une question, il dit, Oumé Aïn Mofia Aracha. D'où il débarque le Racha? D'où a commencé, pourquoi il y a un Racha ici? Qu'est-ce qu'il fait là, le Racha? Ça veut dire, en d'autres termes, un enfant, c'est quelqu'un de très pur. Et il n'accepte pas les injustices. Il n'accepte pas les incohérences. Pour lui, on est sorti un peuple, on est sorti d'exil, on est sorti d'Égypte, on était bien, on était riche, on était beau, on était tzadikim, d'accord? On était tranquille, on était normal, y a pas de problème! Et là, maintenant, d'abord, on est encore en exil. En plus, il y a des pauvres. Peut-être même c'est lui le pauvre, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des pauvres. Et il y a des rechaim. Donc l'enfant, il comprend pas. Il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Okay, je comprends pas. On célèbre quoi? Mais c'est pas la réalité, ça correspond pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, dit le rabbi, pour répondre à cette question, le Baal Agada, celui qui lit l'Agada, il doit commencer à lire le Helachmania. Et le Helachmania, c'est une introduction qui répond à toutes ces questions, à ces trois questions. En quoi ça répond à toutes ces questions? Écoutez bien, on va lire ensemble, c'est magnifique. Le Helachmania, c'est l'introduction au début de l'Agada qui dit, je lis la référence numéro 8, après je vais commenter. Je vais lire toute la référence. Hamatsa she'achlu avotenu lachar yetzia mimitzrayim. La matza que nos parents ont consommée après qu'ils sont sortis d'Égypte, Nikret, elle est appelée De'achlu avatana be'ar'a de Mitzrayim. La matza que nous avons consommée en dehors de l'Égypte, à plusieurs kilomètres de l'Égypte, on l'appelle la matza que nous avons consommée en Égypte. Pour te dire quoi? Les Hadgish, pour insister sur le fait, chez Ofen Ayitia Mimitzrayim Loyem Shlimut. Le message qu'on veut faire passer par le Helachmania, c'est qu'en vérité, on est encore en Égypte. Pourquoi on dit, voici le pain de la misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte? Ils étaient déjà sortis. Pour dire que peut-être que géographiquement, ils étaient sortis d'Égypte. Mais mentalement, ils étaient encore en Égypte. Pourquoi? Uvnei Israël, mitzad atzvam kaviachol, nisharu b'mitzrayim. Les Juifs en eux-mêmes, ils étaient encore en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de raconter là? Metsiutam shel ani beneinu. Et donc, le fait qu'il y a des pauvres encore parmi nous. Vechen ze shanushruim begalut. Et le fait qu'on est encore en exil. Em totsa'a mise chez bnei Israël, lo yatzuaz le gamrim shibud mitzrayim. Tout ça, c'est un dérivé du fait qu'on n'est pas entièrement sorti d'Égypte. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas entièrement sorti? On est sorti ou on n'est pas sorti? Alors, il y a un ma'amar du rabbi précédent, dans lequel il répond à cette question en deux lignes. Deux lignes. Il dit comme ça. Il dit, mais c'est quelque chose, c'est vraiment à méditer, parce qu'on va devoir développer autour de ça. Il dit, Geulat Mitzrayim, je suis à la deuxième partie de la référence numéro 8, Geulat Mitzrayim patra et derer ve atzinor li Geula. La libération d'Égypte ouvrit la voie et le conduit, donc le canal pour la Geula. Ça veut dire comme ça. Dieu, il va envoyer des brachot. Mais des fois, le conduit est bloqué. Il faut débloquer le conduit. Mais après, c'est pas parce que t'as débloqué le conduit que l'eau arrive jusqu'à chez toi. Après, ça prend du temps, le temps qu'elle arrive. Alors, le rabbi précédent, il dit comme ça. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, on a ouvert le conduit. Ça veut dire que maintenant, techniquement, Dieu peut nous libérer. Seulement quoi? Chol azman shemeat yitziat mitzrayim va adagulatida, dit le rabbi précédent. Toute la durée qui date depuis la sortie d'Égypte en 2448 jusqu'à la Geoula en 5775 now, maintenant si Dieu veut, dit amen, amen, d'accord? Eh ben, netunim anu b'emcher echa shilitzem mitzrayim, on se trouve dans un emcher, dans une prolongation. D'accord? Dans une continuité, chez Yetia Mitzrayim de, chez Yetia Mitzrayim de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on apprend d'ici, c'est très simple. Ça veut dire ce qu'on apprend d'ici, c'est que l'enfant, il se pose des questions qui sont très simples. Il se dit, si on est réellement sorti, pourquoi on est encore là-bas? Ça, la vérité, en vérité, le fond du problème. Si tu me dis, on est sorti, pourquoi il y a encore un rachat? Pourquoi il y a encore un pauvre? D'accord? Pourquoi on est encore en exil? C'est quoi la clé de la réponse qu'on lui donne? La clé de la réponse qu'on lui donne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on explique à l'enfant? On lui dit, on n'est pas sorti. Ah, si on n'est pas sorti, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert tout ça?
Pourquoi tu me dis le pain que j'ai mangé?
Alors écoutez bien, pourquoi on célèbre le fait qu'on est sorti? On célèbre le fait qu'on a commencé à sortir. Et ce qu'il explique ici, c'est un grand ridouche qui explique le rabbi précédent, c'est que la Yitziat Mitzrayim est un long processus qui a démarré à la sortie d'Égypte et qui va se terminer à la Geoula.
Pourquoi on l'appelle Yitziat?
D'accord, attendez. Parce qu'encore une fois, Yetziat Mitzrayim, c'est pas sortir géographiquement d'Égypte. C'est pas ça, Yetziat Mitzrayim.
Ah, mais on en ça.
Justement, j'y arrive. Parce qu'on est en train de sortir d'Égypte. C'est un long développement. Voilà pourquoi le Baal Agada, qu'est-ce qu'il te dit au début? Attendez, monsieur Benito, on va développer. On va développer. Alors maintenant, on comprend pourquoi le Baal Agada, celui qui fait l'Agada, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici le pain de misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte. Ah, ils l'ont mangé en dehors d'Égypte. C'est pas grave. Ils l'ont mangé en terre d'Égypte, dans le sens que on est encore en Égypte.
D'accord.
Maintenant, attendez deux secondes.
Ceux qui sont en Israël, ils ne doivent pas dire.
Bien sûr, ils sont tous en exil.
Eux aussi.
Évidemment, qui n'est pas en exil aujourd'hui?
Ils n'ont pas atteint Israël, ils n'ont pas le Beth Amikdash.
Ils n'ont pas le Beth Amikdash. Ils sont en exil, ils sont dépendants de Obama et de je ne sais pas qui. D'accord. Bien sûr, on est en exil. Alors, maintenant, donc on a déjà répondu à une première question. On a déjà expliqué pourquoi dans le Helachma Anya, on a dit Be'ara de Mitzrayim. On a expliqué pourquoi dans le Helachma Anya, on a dit voici le pain de misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte. D'accord? Et on a expliqué aussi le fait que le but n'est pas d'inviter des invités. Le but, c'est d'expliquer à l'enfant qu'est-ce que font là les invités. Parce que les invités, il fallait les inviter à la synagogue. Le but, c'est d'expliquer que Hachat, et là, regardez comment c'est magnifique. On va revenir maintenant au texte numéro 2. Regardez. Vous allez voir comment ce que je viens d'expliquer, ça rentre, mais c'est brillant.
Donc, l'histoire de la sortie d'Égypte, elle aurait dû terminer directement par le ciel, le don de la Torah et la...
Bonne question, j'y arrive. Ça, c'est un très bon point, mais ça, j'y arrive. Bon. Je vais arriver à ça. Je vais relire la référence numéro 2. Regardez, là, vous allez voir comment ça rentre, mais vraiment pile poil dans les mots. Hé, l'Achma Anya, voici le pain de misère. Dia Chalou Avatana, que nos parents ont mangé, Be'ara de Mitzrayim. Ils étaient peut-être sortis géographiquement d'Égypte, mais ils sont encore en Égypte. Kol Dirfin et Teveichol. Que celui qui veut vienne manger. Kol Ditzrich et Teveivsar. Que celui qui veut vienne faire le Pessah. En d'autres termes, il y a des pauvres. Pourquoi il y a des pauvres? Parce que nous sommes encore en Égypte. Ashata Acha. Cette année, maintenant, en 5175, nous sommes encore ici. Nous ne sommes pas encore sortis entièrement d'Égypte. Les Shana Abba, l'année prochaine, si Dieu veut, quand on aura terminé le processus de la sortie d'Égypte, Be'ara de Israël, on sera en Israël. Ashata, maintenant, cette année, Avdin, nous sommes encore esclaves. Ah, nous ne sommes pas esclaves. Oui, mais l'esclavage de Pharaon n'est pas terminé encore. Le processus n'est pas terminé. Les Shana Abba, l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, quand Mashiach revenir, parce que quand on est l'année prochaine, les Shana Abba, c'est pas l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, on sera déjà libre. Mashiach peut arriver maintenant, on n'a pas besoin d'attendre un an plus tard. Les Shana Abba, l'année prochaine, Benechori, nous serons des vrais hommes libres. Nous aurons terminé le processus de la libération. Maintenant, on va revenir à la question de Yves. On a répondu qu'au premier paragraphe, à part moi deux autres. Je vais revenir maintenant, je vais revenir à la référence numéro 9. Et la question, rappelez-vous, on avait posé une question, on avait dit... Pourquoi c'est tellement important de revenir à la sortie, d'accord? De revenir à l'histoire d'Abraham. Pourquoi c'est important? Alors écoutez bien. On a dit qu'il y a plusieurs versions. Ça a été composé après la Gemara. Il y a plusieurs avis. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une personne qui les a compilés à la fin. Parce que ça se voit, c'est clair, il y a une structure. On n'a pas balancé juste des textes comme ça, c'est évident. Alors, on va prendre maintenant la référence numéro 9. Et on a d'autres réponses à répondre encore. Enfin, d'autres questions à répondre. Alors, référence numéro 9. Pourquoi c'était important de revenir à l'histoire d'Abraham et à l'histoire de Terach? Quel rapport avec l'Agan on a posé? Alors, il dit comme ça. Tochen inyan agalut. Il faut comprendre quel était le but de l'exil. Le but de l'exil était... Mirouk vekrabarat chet et sadat, shigaram silouk ashrina meharetz. Le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Le but de la sortie d'Égypte, c'est de réparer et de nettoyer la faute et sadat, la faute donc de la connaissance, shigaram silouk ashrina meharetz, qui a entraîné que l'ashrina s'en va de la terre. Alors, attention, pour expliquer ça, il faut que je rajoute un texte qui n'est pas écrit ici. Écoutez bien. En fait, c'est écrit comme ça. Midrash raconte. Voilà, je vais prendre ici mon texte. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Voilà. Le Midrash raconte que Akadosh Baruch Hu, il a posé la question à Avraham Avinu. Lorsqu'il lui a annoncé que ses enfants allaient devoir passer par une période difficile, il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, qu'est-ce que tu préfères pour tes enfants? Est-ce que tu préfères qu'ils soient asservis dans le Géhinnom? Ou est-ce que tu préfères qu'ils soient asservis en exil? Et qu'est-ce qu'a répondu Avraham? Avraham a répondu, il a dit, je préfère l'exil à la place du Guéhinnom.
La question attendez, devait même pas
attendez,
se poser.
Attendez, doucement. C'est une question que je lui ai posée.
Elle a pas lu.
Si, attendez, mais écoutez-moi, il faut laisser jusqu'au bout. Si on voit que Dieu lui a posé la question, il lui a donné deux choix, ça veut dire que les deux choix sont comparables. C'est-à-dire que Galout est égal à Guéhinnom. Bon. Quand on passe un séjour au Guéhinnom, Dieu préserve, pourquoi on passe par le Guéhinnom?
Pour nettoyer les fautes.
Donc de là, ça veut dire que le but de l'exil, c'est quoi aussi?
Expier les fautes.
C'est pas seulement d'expier, de nettoyer les fautes. Très bien. Alors maintenant, écoutez bien. C'est très important. Pas expier, nettoyer. Alors regardez ce qu'il dit ici le rabbin. C'est quoi? La différence est très simple. C'est que expier, ça veut dire, t'as fait l'imbécile, je t'ai mis une claque. Nettoyer, ça veut dire, t'as fait une tache sur le mur, je vais donner un pot de peinture, tu vas le nettoyer quoi. Ça n'a rien à voir.
Tu répares, en fait.
Alors je continue. Il dit ici comme ça. Il dit, Tochen, je vais relire le paragraphe. Tochen inyan agalut. Quel est le but de l'exil? Mirouk vekapara tret et sadat. C'est de pardonner et donc de nettoyer et de pardonner la faute de la connaissance. Donc la faute, la première faute d'Adam Harishon. Shegaram silu kashrina mia aretz. Vous connaissez l'histoire. On dit que lorsque Dieu a créé le monde, la shrina se trouvait sur la terre. La présence divine se trouvait sur la terre. Lorsque Adam Harishon a fait la faute, qu'est-ce qui s'est passé? La Shrina a déménagé de la terre, elle est partie au premier ciel. Lorsque après il y a eu Caïn qui a tué Evel, la Shrina a déménagé, elle est partie du premier ciel au deuxième ciel, etc., etc. Après il y a eu la génération d'Enoch, après il y a eu la génération du déluge, après chaque génération, ça monte, etc. Et à chaque fois, Dieu il s'éloigne de la terre. La présence de Dieu s'éloigne de la terre. En tout cas, on le ressent moins. Qui c'est le premier qui a enclenché la déchante? Abraham. Abraham, c'est le premier qui a commencé à diffuser le monothéisme dans le monde. C'est le premier. Abraham, c'est le premier qui a commencé à faire descendre Dieu sur terre. Maintenant, il a commencé. C'est pas lui qui a terminé. Il a commencé le travail. Alors, il dit comme ça, le rabbi. Le rabbi, il dit, comme Abraham Avinu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement, c'est lui qui a enclenché la descente. Jusqu'à maintenant, tout le temps, c'était bloqué en haut. Et Abraham, il a enclenché la descente, ça veut dire qu'il a enclenché la descente de Dieu vers la terre. Il a fait que Dieu soit plus bienvenu dans la terre. Alors Dieu, il a dit, comme Avraham Avinu, un karatatov, pour le remercier de ce qu'il a fait, pour le remercier du fait qu'il a enclenché la descente, je vais lui annoncer quand la descente sera terminée. Écoutez bien. Et qu'est-ce qu'il lui annonce? Il lui annonce, il lui dit, regarde, il lui dit, puisque le premier, Harishan Sheitril, Léa Khazir, je suis la deuxième ligne, ou Léamshir Hatashrina, puisque le premier qui a enclenché la descente, c'était qui? C'était Avraham Avinu. Velachen, c'est pour ça, l'Odafka, c'est à lui précisément, Nehemra Aftacha, que la promesse a été donnée, chez Shlemut Biru Achet, que la perfection, donc, de la réparation de la faute initiale, donc Mashiach, Tiyé Alidé Galut Mitzrayim, ça sera par l'exil d'Égypte. Et que, en d'autres termes, Dieu a annoncé à Avraham Avinu, lorsque les Juifs sortiront d'Égypte, c'est Mashiach. Ça, c'est ce que Dieu a annoncé à Avraham Avinu. Ilouzahu, si on était méritant, et si on n'avait pas fauté entre temps, Aïta Galut Mitzrayim Agalut Acharona. Normalement, ce qui était prévu dans le plan de Dieu, si on n'avait pas fauté entre-temps, c'est que Moïse devait être notre libérateur. Moïse devait nous amener directement en Israël. La sortie d'Égypte était la sortie. C'est pas la sortie. La sortie d'Égypte était le moment dans lequel l'Ashrina, qui est redescendue du 7 au 6, maintenant elle arrive du 1 au 0, ça y est, l'Ashrina est en bas. Dieu, pour remercier Avraham Avinu du fait qu'il a enclenché la descente, il lui a annoncé la suite du programme. Il lui a dit la suite du programme, c'est qu'ils vont être asservis en Égypte et qu'ils finiront par arriver par Moshe Rabbeinu, il ramènera la Shrina sur terre, on rentre en Israël et c'est fini. Moshe, il nous amène en Israël et c'est Mashiach. Si on avait mérité, c'est comme ça que Dieu est comme ça. Attendez, s'il vous plaît. Bepoel, concrètement. Galut Mitzrayim Lopa la Biru Bishlemut. Concrètement, ça ne s'est pas passé comme ça. Concrètement, quand on était en exil en Égypte, malheureusement, on n'a pas assez travaillé. En tout cas, on n'a pas assez travaillé, on s'est assimilé. Et donc, à cous de ça, l'opa la bureau bishlemut, malheureusement, on n'a pas pu réparer la faute initiale. Et donc, ou mitzad midat adin, par rapport à la midat du din, c'est écrit comme ça. Le Zohar, il dit, et d'ailleurs, on dit, c'est le ramène de la Gemara. La Gemara, elle dit que lorsque Dieu a décidé de nous faire sortir d'Égypte, il y a eu la midat adin qui est venue chez Akadosh Baruch Hu, qui a dit, pourquoi tu l'as fait sortir d'Égypte? Il dit, regarde, ils sont idolâtres. Les Égyptiens, ils sont idolâtres. Pourquoi eux, tu les tues et eux, tu les fais sortir? Si on suit la midat ad-din, si on suit la midat de la justice, la midat de la justice d'Akadosh Baruch Hu, normalement, la sortie d'Égypte devait être la sortie finale. Mashiach. Donc, si on n'est pas prêt, on a fauté entre temps, on peut pas sortir. On peut pas sortir, on n'aurait pas dû sortir. Et ben, maintenant, on n'aurait pas dû sortir. Et c'est pour ça qu'on dit, Ilulo Tia Akadosh Baruch Hu, si c'est pas Dieu qui avait décidé de dire, bien que c'était pas prévu dans le programme, bien que dans le programme, la sortie d'Égypte devait être la sortie finale, et bien que c'est pas le cas, Dieu dit, je vous pouvais quand même sortir, et c'est pas grave, pour enclencher la descente. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire comme ça. Normalement, d'après le plan d'Akadosh Baruch Hu, la sortie d'Égypte devait être la sortie finale. Donc, tant qu'on n'est pas prêt, on sort pas. Voilà pourquoi on a dit dans le Vadima Inu, Ilu Loti Akadosh Baruch Hu. Si Dieu nous avait pas fait sortir de force, on serait encore en esclave. Alors, c'est quoi le chesed d'Akadosh Baruch Hu? C'est comme Akadosh Baruch Hu, il a compris que s'il allait nous laisser comme ça, on aurait pu rester encore des millénaires et des millénaires en exil chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit d'Akadosh Baruch Hu? Il a dit, je vais leur enclencher la Géoula. Comme ça, au moins, ils sont déjà dans la Géoula. On leur a donné l'avant-goût de la Géoula. On a plus de chance avec ça qu'ils iront vers la Géoula. Si dès le départ, ils nous avaient laissé bloqués en Égypte, jamais on serait sorti. Donc c'est un cadeau qui nous a fait Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez tous ce Brit Bah qui dit dans la Gada Shel Pessah, d'accord, le commentaire de la Gada Shel Pessah qui dit que Be Mitzrayim Ayub Nei Israel Shkuim Rachamana Litzel Memtet Sharetuma. Quand on était en Égypte, les Juifs étaient enfoncés dans les 49 portes de l'impureté. À tel point qu'on dit que un instant de plus et on atteignit la 50e porte, à la 50e porte on peut plus sortir. Donc ça veut dire logiquement, est-ce qu'on avait une raison de sortir d'Égypte?
Oui.
Aucune raison. Non. Zéro raison. On ne devait pas sortir. Pourquoi on sort d'Égypte? Ça veut dire que c'est Mashiach. Quelle Mashiach? 49 portes de l'impureté. Quelle Mashiach? Où Mashiach?
On n'avait aucune raison d'y rentrer.
Si, bien sûr. Parce que le but de l'esclavage en Égypte, c'était pour réparer la faute initiale d'Adam.
Oui.
Avec un temps donné. La faute initiale d'Adam a été à cause de l'orgueil, a été à cause de beaucoup de choses.
Mais avec un temps donné.
Ça change pas. Le temps donné, c'était le temps que Dieu a prévu dans le programme pour nous donner le temps de réparer. On avait le temps de réparer dans ce temps-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est que nous, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Nous, entre-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Normalement, on n'aurait pas dû sortir. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? C'est un recette extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit...
C'est-à-dire qu'on attendait encore plus des Juifs quand ils étaient esclaves.
C'est pas qu'on attendait, il y avait un projet.
Non, mais c'est ça, on attendait encore plus d'eux quand ils étaient esclaves.
Quand Dieu envoie une épreuve, c'est pour purifier la personne. C'est pour casser son égo et pour le pousser à servir Dieu. On est devenu idolâtre, il faut le savoir ça. On a gardé nos vêtements, mais on est devenu idolâtre. On était idolâtre comme les Égyptiens. On était idolâtre.
On était asservi.
Mais on était idolâtre.
Mais il n'y avait pas d'autre.
On n'était pas monothéiste, c'est très grave. Je veux dire, la base d'un juif, c'est quoi? C'est d'être monothéiste, c'est de croire en un seul Dieu. On était idolâtre en Égypte.
Ils étaient tous.
Mais tous. À part le Bnei Lévi peut-être. D'accord. Mais c'est la question. La question en vérité, ce qu'il dit le rabbi, c'est ça. C'est qu'il dit, maintenant, comprends. Ilou loti akadosh baruch hu et avotenu mitzrayim. Si Dieu n'avait pas fait sortir nos parents d'Égypte, on serait encore esclaves aujourd'hui. Pourquoi on serait encore en esclavage? Puisque le but de l'esclavage, c'est quoi? Il y a un but. Le but, c'est quoi? C'est de réparer la faute initiale, c'est de réparer l'ego, c'est de réparer l'idolâtrie, de réparer tout ça. Mmh. Tant que ce but n'est pas atteint, on sort pas. Dieu ayant un chesed, il a dit, on va faire quelque chose hors piste. On va faire quelque chose, s'il vous plaît, hors piste, ça veut dire quoi? On va les faire sortir, même si c'est pas le moment, même s'ils méritent pas. C'est comme un enfant, si vous voulez, que son père lui dit, si tu as des bonnes notes, je te donnerai un cadeau. L'enfant n'a pas des bonnes notes.
C'est de la pitié?
Deux secondes. L'enfant n'a pas de bonnes notes.
Il lui donne quoi?
Qu'est-ce qu'il fait le père? Il lui dit, viens, je vais donner le cadeau, tu vas le tester. Viens, joue un petit peu. Mais tu as dit non, tu as dit tu vas le donner s'il a des bonnes notes. Il n'a pas de bonnes notes, pourquoi tu lui donnes le cadeau? C'est pas logique. Parce que le père, il sait, à un moment, il comprend que s'il lui fait pas goûter le cadeau, les bonnes notes, ça arrivera jamais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il lui dit, écoute, tu vas commencer maintenant à utiliser le vélo et on va rentrer dans un long processus. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche.
Il prend pas aucun risque.
Bien sûr qu'il prend un risque.
Il prend aucun risque.
C'est un gros risque qu'il prend là. C'est qu'il a lancé la Géoula, qu'on n'était pas prêt. Bien sûr qu'il prend un risque. Normalement, on n'aurait pas dû sortir. C'est un reset d'Akadosh Baruch Hu.
Vous avez dit tout à l'heure qu'on était tous des idolâtres.
Là, en Égypte, il a pris un risque pour nous en sortir. Un risque ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas prévu dans le programme.
Mais le projet de Dieu, apparemment, c'était de nous donner tout de suite à la sortie d'Égypte.
Le projet de Dieu, c'est qu'on soit méritant pour ça. On n'était pas méritant, on était idolâtres. Ça veut dire, en d'autres termes, je vais vous dire la vérité ce qui s'est passé. C'est qu'on était idolâtre. On est sorti et en express, on nous a rendu hyper croyants pour nous donner la Torah. Mais c'était évident, c'était inévitable qu'on allait retomber. Puisque c'était pas nous. On était pas prêts pour ça. On était pas prêts, on était idolâtre.
On dit qu'on était idolâtre et d'un côté on dit qu'on a nos hachamim, qu'on a nos nebunim.
Non, pas du tout. On dit même si on est tous hachamim, il faut raconter la Gada. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la Gada. Ça n'a rien à voir, excusez-moi.
C'est dit comme ça.
Non, c'est écrit même si on est Rachami, il faut quand même raconter la Gada.
Ah ben.
Alors, donc maintenant, Rabotai, écoutez bien. On va passer maintenant à la référence parce qu'il faut qu'après qu'on reprenne point par point pour expliquer comment on a répondu aux questions. Vous allez voir que c'est un fil conducteur. Ça explique aussi maintenant, on a posé une question, la question que l'enfant se posait, il disait, pourquoi il y a la pauvreté? Ça, on a expliqué. Il y a la pauvreté parce qu'on n'est pas sorti entièrement d'Égypte. Pourquoi on a expliqué, et on avait posé la question aussi, pourquoi il y a des pauvres? Ça, on a expliqué. Pourquoi il y a des Rechaïm? Alors ça, on n'a pas encore répondu. Pourquoi il y a des Rechaïm? Pourquoi on est encore en exil? Ça, on en explique. Écoutez bien. Référence numéro 10. Kolzman, donc ça c'est la question qu'on se pose, pourquoi on est encore en exil? Pourquoi il y a encore des épreuves? Et pourquoi il y a des Rechaim? D'où ils sortent les Rechaim? La réponse est très simple. Kolzman shelonit mal'a amatara v'atachlit. Tant que le but du raffinement et nettoyage de la faute n'est pas atteint. Aïnou abirou bishlemu. Tant qu'il n'est pas atteint. Aré, bnei Israël mitzadina modrekatam, adain enam vorem uzachim le gamadain le gamre mehara. Tant que le raffinement absolu n'est pas atteint.
Mais on n'a pas la règle du jeu.
Monsieur Benita, s'il vous plaît, il faut me laisser arriver. Monsieur Benita, s'il vous plaît. Tant qu'on n'a pas une nettoyage absolue. D'accord? Les Bnei Israël ne sont pas exempts du mal. À tel point qu'il y a un rachat. Bien sûr qu'il y a un rachat. Tu crois, pourquoi il y a un rachat? Bien sûr qu'il y a un rachat. On est encore en exil. Qu'est-ce que tu crois? En exil, il y a un rachat. Seulement quoi? Au même mail là, automatiquement. Mitzat est très puissant ce qu'il dit ici. Mitzat midatadin. Si on suit la midatadin, yesh netinat makom lazé. Eh ben, on peut laisser la place à ça. Shomdi malenu le chalotenu. Quand des ennemis, comme après Dini Jad, ils marchent moi, ils viennent nous attaquer. Pourquoi Dieu nous sauve? En quoi on est méritant? Pourquoi Dieu nous sauve? Pourquoi Dieu me sauverait? Si je suis rachat comme l'autre, pourquoi tu veux qu'il me sauve? Et c'est pour ça qu'on dit dans le Veïcha Amda, Ve'akadosh baruch hu matzilunu mi'adam, que très souvent, les ennemis nous attaquent, et quand les ennemis nous attaquent, il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu nous sauve. Des fois, on n'est pas méritant, on fait plein d'avérot, pourquoi tu veux quand Dieu il dit, bah écoute, bien fait pour toi, pour ta faute, tu prends sur toi. Et quand même, qu'est-ce qu'il fait Akadosh baruch hu? Par son chesed, il refait la même chose qu'il a fait à la sortie d'Égypte. Ve'akadosh baruch hu matzilunu mi'adam, Akadosh baruch hu continue à nous sauver, même si on n'est pas méritant. Ça, on comprend comment c'est un reset d'Akadosh Baruch
Hu. Pourquoi c'est toujours une responsabilité collective et pas individuelle?
Parce que y a une faute générale à réparer.
Parce qu'on est un.
Tant que la faute générale n'est pas réparée, elle n'est pas réparée.
Alors,
d'accord?
Non, mais tu peux pas, tu juges pas une collectivité.
Alors,
tu
juges maintenant, ce que je voudrais expliquer maintenant, c'est pourquoi dans ce cas-là, alors si maintenant on vient d'expliquer que finalement, si je termine ce qu'on a expliqué, finalement, la première sortie d'Égypte, c'était un échec. Puisque bon, on a peut-être enclenché la descente. Mais concrètement, voilà, après on est reparti en exil, alors à quoi ça sert tout ça? Et surtout, pourquoi on célèbre? Qu'est-ce qu'il y a à célébrer le jour du CDR, finalement? C'est la question qu'on va se poser.
Est-ce que quelque chose a changé?
Qu'est-ce qu'il y a à célébrer? Alors là, le rabbi donne un très très grand ridouche. Il y a un verset dans Malachi qui dit comme ça. Après, on fera un résumé de tout le cours. Il y a un verset dans Malachi, qui dit comme ça. Qui dit, Ahav ti etrem amar Hashem. Dieu lui dit, je vous aime. D'accord? Je vous aime.
C'est fait aussi. Voilà.
Dieu, il dit, je vous aime. Alors, et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, allo, ach, esav, le Yaakov, nous, machem. Dieu, il dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Attends, écoutez bien. Il dit, allo, ach, esav, le Yaakov, nous, machem. Il dit, pourtant, est-ce que Esav n'est pas le frère de Yaakov? Et pourtant, vaoa, vet Yaakov. Yaakov, je l'aime. Vet Esav, sa neti, et Esav, je l'ai haï. En d'autres temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit ici que Esav et Yaakov sont des frères, et pourtant, Yaakov on l'aime et Esav on l'aime pas. Pourquoi Yaakov on l'aime? Parce qu'il fait des mitzvot? Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Pourquoi il l'aime? Alors écoutez ce qu'il dit le rabbi. Il l'aime parce qu'il a choisi. C'est quoi un choix?
Il a choisi quoi?
Écoutez bien, il a choisi Yaakov, il a choisi Israël. C'est quoi un choix? Un choix, si par exemple, écoutez, là je vais m'arrêter un peu sur un thème très très important en Rassidus. Imaginez par exemple, voilà, donne-moi le... Ça et le Schweppes. D'accord? Imaginez que j'ai ça et ça devant moi. Le Schweppes et Badoua devant moi. D'accord? Et que je dis, on me dit, est-ce que tu veux du Schweppes ou de la Badoua? Et que je dis, je veux de la Badoua. J'ai choisi de la Badoua. Mm-hmm. Bon. Est-ce que ça s'appelle un choix, ça? La Chassidou t'a dit que ça ne s'appelle pas un choix. Pourquoi ça s'appelle pas un choix? Écoutez bien. Elle dit parce que si je préfère la Badoua, ça ne veut pas dire que j'ai choisi la Badoua. C'est-à-dire que mon cerveau m'a expliqué que la Badoua c'est mieux pour moi. Donc ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un vrai choix. Écoutez bien. C'est quoi le vrai choix? C'est si j'ai deux bouteilles de Badoua devant moi, les deux exactement les mêmes, et qu'on me dit laquelle tu veux, celle de droite ou celle de gauche, ou bien celle qui est là ou celle qui est là. Et je dis, je prends celle-là. Pourquoi tu veux celle-là? Je dis, comme ça. Il n'y a pas de raison. Le vrai choix, c'est quand il n'y a que le libre arbitre qui a décidé et il n'a pas été conditionné. Si j'ai choisi la Badoua par rapport au Schweppes, je suis conditionné parce que je préfère la Badoua par rapport au Schweppes. Le vrai choix, c'est quand ce n'est pas conditionné. Qu'est-ce qu'il explique ici dans ce commentaire, le Rabbi? Il dit comme ça. Il dit, finalement, tout compte fait, quand on analyse, et ben, très souvent, Yaakov et Esav sont les mêmes. Yaakov et Esav sont les mêmes. Et que des fois, il n'y a pas forcément de raison pourquoi Dieu a choisi Yaakov plus que Esav. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Kadosh? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais choisir les Bnei Israël parce que je les aime. C'est comme ça. Pourquoi tu aimes? C'est comme ça. J'ai choisi. Pas de question pourquoi. Ça veut dire qu'en vérité, tant qu'on n'était pas sorti d'Égypte, chaque fois que Dieu nous récompensait, c'était par rapport à ce qu'on avait fait. Tu t'es bien comporté, on te récompense. Quand on est sorti d'Égypte, pour la première fois de l'histoire, Dieu a annoncé un programme et il n'a pas suivi son programme. Il a annoncé qu'il fallait qu'on soit hyper méritant pour sortir. On n'était pas méritant et il a dit, c'est pas grave, je vous prends quand même. Mais pourquoi tu vous as pris? On n'était pas méritant. Et bien là, il a montré, il a prouvé à Kadosh Baruch Hu qu'il aime les juifs, pas parce qu'ils font des mitzvot. Il aime un juif parce que c'est un juif, parce qu'il l'a choisi. Voilà pourquoi. Dans le, qu'est-ce qu'on a expliqué? Comment on appelle le Beit HaMikdash dans le dernier morceau? Beit HaBechira. La maison d'élection. Dans le Beit HaMikdash, qu'est-ce qu'il y a dans le Beit HaMikdash? C'est quoi le Beit HaMikdash? Beit HaBechira, la maison d'élection, c'est-à-dire c'est un endroit dans lequel Dieu il nous montre comment il nous aime. Et pas parce qu'on a fait, pas parce qu'on a fait des mitzvot. Il nous aime parce qu'il nous aime. Les chaper al kol avonotenu. Le but du Beit HaMikdash, c'est quoi? Les chaper al kol avonotenu. Pour pardonner sur toutes les fautes, ça veut dire quoi, dit le rabbi? Ça veut dire que la relation qu'un juif il a avec Kadosh Baruch Hu, ça arrive à un tel niveau que quelque part la faute ne tient même pas. La faute n'est même pas importante. La faute est insignifiante. Parce qu'il nous aime comme un père il aime son fils et que c'est insignifiant. Voilà, si vous voulez bien, là pour l'instant c'est un peu confus. On va revenir maintenant, on va retourner la page. Et on va reprendre les points de la Haggadah. Point par point, et vous allez voir comment on a répondu à toutes les questions. Donc rappelez-vous. On a dit que l'enfant, quand il commence le CDR, avant même de commencer le CDR, il est dérangé par trois questions. Trois injustices. Premièrement, pourquoi on est encore en exil? Puisque tu me dis qu'on est sorti d'exil. Deuxièmement, pourquoi il y a le pauvre autour de la table? Pourquoi l'injustice de la pauvreté? Et troisièmement, pour qu'est-ce que le rachat fait là? Qu'est-ce qu'on répond à l'enfant le soir du CDR? Première chose, on lui dit, voilà l'introduction du CDR. Hé, l'achma anya. Voici le pain de la misère d'hier à l'ouavatana que nos parents ont mangé. Béar ad emitzraïm. Ils l'ont mangé peut-être en sortant d'Égypte, mais ils sont encore en Égypte. Et on précise à l'enfant, on lui dit, sache que à Shatahara, on est encore en exil, on n'est pas sorti. Donc là, déjà, l'enfant, il comprend, hein, qu'on est dans un processus qui n'est pas terminé encore. D'accord, l'enfant, il commence à comprendre. Après, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit dans le deuxième paragraphe? On a dit, nous étions esclaves à Pharaon. Et si Dieu n'avait pas fait sortir nos parents de force d'Égypte, on serait encore esclaves. Bien sûr, on serait encore esclaves. Puisque Dieu, quand il a annoncé à Abraham qu'il allait nous faire sortir, il y avait un but. C'est quoi le but? C'est qu'on devait être méritant. On devait pouvoir terminer de réparer la faute initiale. Donc, puisqu'on l'a pas réparé, tant qu'on l'a pas réparé, ça aurait pu durer, ben, 15 siècles, 20 siècles, 50 siècles, tant qu'il faut. Tant que la faute n'est pas réparée, on peut pas sortir. C'est pour ça qu'on dit, il ou l'autre, à Kadosh Baruch Hu, si c'était pas Dieu par son recette qui nous a fait sortir, on serait encore esclaves aujourd'hui. Avec ça, on explique aussi, pourquoi, on a expliqué, dans la référence numéro 4, on a expliqué, au début, nos parents étaient, Mitechila, c'est quoi Mitechila? Il était idolâtre. C'est-à-dire, au début, la Shrina était où? Elle était tout en haut. Ve'archav, et maintenant, bien sûr maintenant, parce que le processus a démarré depuis qui? Depuis Abraham qui a enclenché la descente. Mais après, cette descente, elle n'est pas terminée. Parce qu'elle devait terminer par la sortie d'Égypte, mais elle n'est pas terminée. Ve'archav, ça se passe maintenant. Kervanu amakom lavodato. Dieu nous a approchés vers son service. C'est maintenant que ça se passe. La sortie d'Égypte, c'est pas un événement qui s'est passé, ça fait 3300 ans. C'est en train de se passer maintenant. C'est un processus. D'accord? Kervanu amakom lavodato. C'est maintenant que ça se passe. Avec ça, on explique aussi la référence numéro 5. On dit, Ve'ishamda lavotenu velanu. Merci Hachem, il nous sauve tout le temps. Mais c'est normal qu'il nous sauve tout le temps. Non, c'est pas si normal. Puisqu'on n'est pas forcément plus méritant que les goyim. Pourquoi quand un goyim m'attaque, je viens me sauver? Eh ben, il y a des fois des cas dans lesquels on n'est pas méritant. Il y a des fois des cas dans lesquels Dieu préserve, les goyim veulent nous attaquer. Et que la Midat Adin, elle dit, à Kadosh Baruch Hu, elle dit, laisse les goyim attaquer Israël, ils sont pas méritants. Et qui c'est qui nous sauve? Ve'akadosh Baruch Hu matzilei nomi adam. C'est Akadosh Baruch Hu qui défie la Midat Adin, qui défie la justice divine, et qui dit, je les prends quand même. Il y a pas de raison, quand même, je les sauve quand même, même s'ils sont pas méritants. Alors là, quand on lit la Gada, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ils nous sauvent? Qu'est-ce qu'on a fait? En quoi on est méritant? Pourquoi moi plus que le goy? Pourquoi il va tuer le goy et moi je suis là? C'est là qu'est le Kama Marlot Tovot la Makom Aleinu. À la fin, c'est là que ça se termine. Après, c'est Pesach Matzavaron. Après, c'est terminé la Gada. D'accord? C'est là que, il y a la dernière partie de la Gada qui répond à cette question. Qui dit, Ilu Otsenu Mitzrem, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Uvana lanu et beit abechira. Il dit, Dieu, il t'a choisi. Quand Dieu, il a choisi quelqu'un, il a choisi. Et en d'autres termes, on nous explique. On explique à l'enfant, on s'explique, on te dit, ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu, il a choisi les juifs. Ne crois pas que les juifs sont mieux que les autres. Ils sont pas mieux que les autres. Ils sont peut-être même pires, des fois. Des fois, la Mitzvah n'est pas d'accord qu'on soit sauvé. Mais beit abechira. Dieu nous a choisi. Et quand il nous a choisi, on peut rien faire. Il y a une prière à Kadosh Baruch Hu. Et comme il dit, il y a un texte du Midrash qui dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit, Leachlifam beuma acheret yefchar. Akadosh Baruch Hu dit Benkar ou Benkar banayem. Quoi qu'il en soit, c'est mes enfants. Et je pourrais pas les changer avec une autre nation. Ça veut dire, c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu dit, c'est comme un fils. Est-ce qu'on peut changer un fils? On dit, ah, il est pas bon, il se comporte mal. Qu'est-ce que ça change? Qui se comporte bien, qui se comporte mal, ça reste mon fils. C'est comme ça. Et ben, la même chose. Kadosh Baruch Hu nous a choisi, mais pas par un choix qui est rationnel. Ne croyez pas qu'on est mieux que les autres, parce que si on était mieux que les autres, dans ce cas-là, ça aurait été un choix rationnel. Et dans ce cas-là, le jour où on se comporte mal, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, bon, bah, choisis un autre. Le jour où je prends la badoie parce que je crois qu'elle est bonne, si j'estime maintenant que la chose est meilleure, je dis bon, bah, je prends la chose. Mais si dès le départ, le choix n'était pas conditionné, le choix était parce qu'il a choisi, et c'est comme ça. Il n'y a pas de raison. Et ben là, il te dit, quand on a un niveau comme ça, c'est Bet HaBerira, il nous a choisi. Les Chaper al-Kol Avonetenu, ça veut dire quoi les Chaper al-Kol Avonetenu? Ça veut dire qu'on est à un tel niveau, que Dieu tellement il nous aime, qu'on est à un niveau dans lequel la faute n'attrape même pas. Et ça, c'est l'enseignement qu'on a tiré de la... Après, les questions. Ça, c'est l'enseignement qu'on a tiré de tout ce fil conducteur qu'on a expliqué. C'est qu'il faut savoir que l'histoire de la Gada est une histoire qui est actuelle. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 3300 ans. C'est important de se le rappeler chaque année pour retenir deux choses. Premièrement, que la sortie d'Égypte est un événement qui est continu, qui n'est pas terminé. Et deuxièmement, savoir apprécier le recette d'Akadosh Baruch Hu, qui de la même manière qu'il y a 3300 ans, il nous a fait sortir par son recette alors que la Midat Hadin n'était pas d'accord et qu'on n'était pas méritant, on était idolâtre. De la même manière, ce même recette d'Akadosh Baruch Hu, il continue à nous sauver aujourd'hui de nos ennemis, même quand on n'est pas méritant et même quand la Midat Hadin est dit, il faut quand même attaquer, parce que Akadosh Baruch Hu, Beit HaBerira, Akadosh Baruch Hu, il nous aime et c'est comme ça, il n'y a pas de raison. Ça, c'est le fil conducteur de la Gada. Voilà, vous avez des questions?
La première, c'est, il dit, il nous a choisi sans raison, etc. Pourtant, il y a un midrash qui dit que quand il nous a proposé la Torah, il l'a proposé à tous les peuples, dont il est le seul à avoir accepté.
Alors, je vais te dire.
Est-ce qu'il y a un double choix, Dieu a proposé quelque chose.
Je vais te dire.
Et au final, les Juifs se sont tout de suite reconnus, Dieu aussi. Et en fait, c'est comme un couple, ça match tout de suite.
Ok, j'entends la question. Je te réponds à la question. Tu sais comment il a fait Dieu pour la Torah? Il est parti dans toutes les autres nations. Il est parti leur, excusez-moi, il les a conditionnés. Il est parti dans toutes les autres nations. Par exemple, il est parti voir ceux qui volent, les Arabes.
Donc, il a d'accord
blessé, en fait. Et il leur a dit, il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Alors, ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il leur a dit, dans la Torah, c'est écrit, tu voleras pas. Évidemment, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils vont te répondre non, évidemment. Il est parti voir les Juifs. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs? Ils ont dit, d'accord, on prend. Ils étaient esclaves. Après, dès qu'ils sont arrivés devant le don de la Torah, les Bnei Israël ont dit, non, on veut pas. On a refusé. Dieu, il a pris la montagne, il a retourné sur eux. Et il leur a dit, soit vous acceptez la Torah, soit ici sera votre enterrement. Mais ça, il l'a pas fait aux autres.
Mais c'était conditionné aussi.
Ça, il l'a pas fait. S'il avait fait ça, ils auraient dit oui aussi. Bien sûr, ils auraient dit oui. Ça, il l'a pas fait. Il l'a fait à nous. Alors, ça veut rien dire. On dit, oui, on dit, Nassavenishma. Oui, mais il nous a forcé à dire oui. Ça veut dire que pour Dieu, on devait dire oui. Parce qu'il nous aime, et c'est moi qui dois acheter. Maintenant, il a fait un appel d'offres, parce que, officiellement, il fallait faire un appel d'offres. Mais dès le départ, il savait quel client il allait le donner. Et c'est ça. Ça, le chat. C'est Bet HaBerira, il nous a choisi. Mais ça, on l'a retrouvé, cette notion, on l'a retrouvé dans Beth Amikdash.
On lui reprochait ça, les nations plus tard.
Évidemment, bien sûr qu'on lui reprochait. D'accord.
Bon, mais il y avait une affiliation avec Abraham.
C'est, pardon?
Il y avait une affiliation avec Abraham.
Bien sûr.
Oui, mais ça avait commencé avec.
Maintenant, on comprend le rapport avec Abraham. Le rapport avec Abraham, c'est qu'Abraham a enclenché la descente.
Oui, c'est-à-dire qu'il pouvait pas, quoi qu'il arrive, de donner un autre peuple. Il y avait Abraham, Israël.
Oui, d'accord, mais j'ai compris. Non, attends, doucement. D'abord, il y a Esav, exactement. Mitzrayim descend d'Esav, premièrement. Et deuxièmement, il y a un autre problème. C'est que Dieu, il avait annoncé le programme. Il avait dit dans 400 ans, ils auront réparé la faute, et là, ils sortiront.
Mais ils savaient
très bien. Donc, il y a les étapes. On peut pas brûler les étapes. Tant que ils n'ont pas réparé la faute, ils peuvent pas sortir. Et là, Dieu, il a défié son programme parce que, on lasse pas en plan un enfant, c'est comme ça. Même quand tu l'as annoncé quelque chose.
Ils avaient la capacité pour réparer la faute.
Parce que si Dieu l'avait prévu dès le départ, c'est qu'il pouvait le faire. Seulement, on n'a pas voulu le faire, on l'a pas fait, on a été fainéant, on est devenu idolâtre.
Mais c'est pas qu'on n'a pas voulu, on n'avait pas, c'est nous qui avons la faute.
Comment on est devenu idolâtre? On n'était pas idolâtre quand on est venu en Égypte. On est devenu idolâtre.
L'environnement qui était comme ça.
Donc on s'est laissé aller dans l'environnement. On s'est assimilé.
Pourquoi la faute d'Adam est une réparation? En quoi l'esclavage est une
réparation? Il n'y avait pas la Torah alors. Alors qu'on a laissé simuler.
Le fait qu'on ait été en esclavage et pas la tribu des Lévites, c'est parce qu'on a justement on a commencé à s'assimiler avant l'esclavage et que ce n'est qu'une c'est un cause à effet, j'ai envie de dire.
Tu veux dire ta question, c'est en quoi
la faute d'Adam? On aurait pu dire, comme vous vous êtes assimilé aux Égyptiens, etc., après la mort de Yosef, etc.,
la réponse,
c'est pour ça que petit à petit vous êtes arrivé esclave.
Il y a plusieurs réponses possibles. Je ne vais pas rentrer dedans. Et on peut donner une réponse que la faute d'Adam a été faite à cause de l'orgueil. D'accord? Et quand Dieu il fait souffrir quelqu'un, Pourquoi on fait souffrir quelqu'un? Pourquoi Dieu il envoie une épreuve à quelqu'un? On ne peut pas donner des raisons, mais quand il fait souffrir quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Son ego, il est cassé. C'est-à-dire, il croyait qu'il gérait tout, il ne gère plus rien du tout. Et donc, à un moment, hein, il doit percuter. Il doit comprendre qu'il ne doit pas se focaliser sur le problème qu'il a. Il doit se focaliser sur le message que Dieu veut lui faire passer. Du style, je sais pas moi, il y a un problème, la machine à laver est tombée en panne, il a fait un accident de voiture, alors il va dire oui, mais il faut que je répare la voiture, il faut que je répare la machine à laver. Non, moi je dis mais non, mais il y a un message que Dieu veut t'envoyer. Ne te focalise pas sur le problème, faut te focaliser sur le message. Le problème qu'on avait quand on était en Égypte, c'est qu'à chaque fois on se focalise sur le problème, pas sur le message. Et donc du coup, on est devenu idolâtre, on s'est assimilé comme tout le monde. Alors du coup, ben on s'est habitué avec le temps, et ben on est devenu idolâtre et esclave. Mais le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on percute et qu'on dit attends, mais qu'est-ce qu'on fait là ici? Pourquoi on est esclave? Qu'à un moment, on comprend, on dit attends, mais il y a un Dieu. Ah, on va l'appeler ce Dieu. Mais vraiment, vraiment qu'on arrête l'idolâtrie. Malheureusement, c'était pas le cas. Si vous voulez, on appelait un peu Dieu, mais on était croyant, fils de croyant, mais en même temps, on était idolâtre. À tel point que la Midatadine, elle a dit, je ne vois pas comment le but de Dieu a été atteint, on ne doit pas sortir. Et Dieu, par son chesed, il s'est accroché sur une petite mitzvah, il a dit, bon, fais leur faire la Mila et fais leur faire le Pessah, et vas-y, il sort. Ça veut dire qu'il voulait nous faire sortir. Il a dit, la date est arrivée, je l'ai fait sortir, et c'est tout. Et tant pis, à la limite, il a mis une petite mitzvah pour dire à la Midatadine, voilà, je leur ai fait une mitzvah, c'est bon, ils sont méritants, ils peuvent sortir. Mais c'est clair que Dieu, c'était au-delà d'un calcul, au-delà d'un conditionnement, il nous a fait sortir parce qu'il voulait nous faire sortir, et c'est tout.
Quand voilà. Est-ce qu'il a fait ce choix? À la sortie d'Égypte?
Non, voilà. En fait, ce choix, il a déjà fait depuis la création du monde. Mais, le moment dans lequel il nous l'a montré, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que nous, à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le fait que Akadosh Baruch Hu Matsiv Nous Miyadam. On célèbre le fait que, à ce moment-là, Dieu nous a prouvé que, à ce moment-là, quand normalement il aurait pas dû nous faire sortir, il nous a quand même fait sortir. Ça, jusqu'à maintenant, c'était des promesses. Si tu veux, c'est comme un père qui promet quelque chose à son fils et le fils n'est pas méritant. Et quand on arrive à la date butoir et que le fils n'est pas méritant, le père il donne quand même. Et là, le fils dit à son père, il dit là, tu m'as prouvé que t'es mon père, tu m'aimes quand même.
Comment on comprend après ça, va Haleotam Kerada après le Hegel?
Comment comprendre que?
Il dit à Bachale Otam Kerega.
Bon, mais pareil, c'est toujours, excuse-moi. Dieu, il dit, Dieu, mon cher venu, il dit, laisse-moi, je vais les détruire. Et c'est comme ceux qui disent,
retiens-moi.
Il dit, Dieu, il dit à Moshe, laisse-moi. Ça veut dire, attrape-moi, laisse-moi. Évidemment.
Ceux qui ouvrent la chemise.
Si Moshe n'avait rien dit.
Retenez-moi.
Ça veut dire, il veut qu'on le retienne, il cherche attention, c'est clair. Dieu, il comptait pas le détruire, c'est pas shoot. C'est pas juste, c'est clair. C'est-à-dire, dès le départ, c'est conditionnel. Voilà, c'est clair. Dès le départ, Dieu nous aime, et c'est comme ça. Ça veut dire, à la limite, même si Esav était plus sadique que nous, il nous aurait choisi à nous. Et ben, non. Ben, Amérira, il nous a choisi. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui.
Magnifique.
Bien sûr, vas-y.
La matzah, c'est aussi pour l'orgueil.
Bien sûr, oui, bah après c'est les parages. Mon but c'était juste de montrer le flux conducteur de la Haggadah, tu vois, non. Ça c'était le but. Après on peut ouvrir beaucoup de parenthèses, on peut faire beaucoup de bifurcations. Voilà, désolé, on a fini un peu plus tard, mais bon, il fallait terminer le thème. Merci.